Lundi 1er décembre 1997, cours de Rav Eman à Montevideo.
Il fait le 5, il va
faire. Mais le 6, on l'a déjà fait. Valam Taroui, Tachouli, Mirosh Amana, Mirosh Chine, Vachermond. Moi, je vais traduire ça. Alors, si on traduit mot à mot, Iti, avec moi. Milvanon, du Liban, Kala, la fiancée, Iti Milvanon Tavoui, avec moi, du Liban Tavoui, tu viendras, Tachoui, tu contempleras, Mirosh Amana, Amana c'est ce qu'on appelle Touré Amnon. Tourus Amanus, c'est la frontière d'Eretz Israël. Meros Senir Vechermon, du haut du mont Senir et du mont Chermon. Mimeonot Arayot, de l'endroit de l'habitation Arayot des lions. Mehar Rei et des montagnes, Nemerim, c'est où le tigre ou le léopard. Voilà. Alors on va essayer de comprendre. Iti milvanon kala. Iti, c'est avec moi milvanon. Que du sanctuaire, du Beth Amikdash. Kala. Viendra la fiancée. Iti, c'est avec moi, Milvanon Tavoui. Qu'elle retournera au Beth Amikdash. Tachouri, elle contemplera Mirosh Amana, Mirosh Sneb Kharman, Mimonot Arayot, Mirarenemir. Il y a une idée dans la Kabbalah qui s'appelle Shrinta Begaluta. Mot à mot, la Shrina, la présence divine, Begaluta, elle participe à la galoute du peuple juif. Elle est aussi en galoute. Ça vient de ce verset. Comme Rashi dit, Iti tegalou, ki ani agalé au aiglé imachem. Moi, j'irai en galoute avec vous. Iti emil vanon tavoui, ou ksheta shuvu minagola, ani ashuvu imachem. Lorsque vous reviendrez de la galoute, moi je reviendrai avec vous. Veaf kol yomei agola vetsaratra litsar. Ta peine sera la mienne. Valken katav iti milvanon tavoui. Il y a un problème, c'est que le premier iti, on le comprend, iti avec moi, milvanon, quand il faudra partir de Levanon, kala. Mais après marqué iti avec moi, milvanon, du Levanon tavoui. Il fallait marquer l'Ilevanon Tavoui, vers le Levanon. L'Omar, Mishat Yetziatchem Ikan, Atchad Yatchem. Donc c'est une répétition. Itim Ilevanon Kala, c'est avec moi que vous partirez. Itim Ilevanon, vous resterez toujours depuis le Levanon, quoi qu'il se passe. Tavoui, jusqu'au retour. C'est ça qui est marqué deux fois Itim Ilevanon. Pour dire que ça restera toujours Milvanon, même dans la galoute. Atchad biatrem, kan animachem. Je serai avec vous. Non, mais essayez de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce moussak de Shrinta Begaluta? On va continuer le verset. Ta chourie, tu contempleras Merosh Amana, Merosh Sinir Becherma, c'est-à-dire quand tu reviendras en Eretz Israël, tu arriveras par Amana, Sinir et Hebron, ces trois montagnes qui sont au nord d'Eretz Israël. Nimonot Arayot, c'est l'endroit où résident les Arayot, les lions, mais Arrenemérim et les montagnes où se trouvent les léopards. Rachidi. Kshagaluyot nidkabsu magiyot sham. Lorsque toutes les galiotes reviendront, alors, em tsofim misham veroim gvul eretz Israël. Ils contempleront de là-bas le gvul, la frontière de l'Eretz Israël, va viracher l'Eretz Israël, ils pourront voir à l'intérieur de l'Eretz Israël, usmechim, et ils se réjouiront, veomrim odaya, et à ce moment-là, ils remercieront. C'est pour ça qu'il y a marqué Tashuri Merosh Amana. Au moment où tu reviendras, Tashuri Merosh Amana. Tu contempleras Merosh Amana. Seulement, il est bien évident, et Rachid l'a dit au début, que si on a appelé ces montagnes qui sont les montagnes de Amnon, Tour et Amnon, qu'on les décrit en tant que Amana, et on ne dit pas le mot Amnon, c'est que ça veut dire quelque chose. Rachid dit, de Kibtzi Ed Nidachaïr, au moment où je ramènerai tous les exilés, Tistakli, tu verras, Vetit Boneni, et tu réfléchiras, Masachar pour la terre, quel est le salaire de ton labeur, Mereshit Aimuna, chez Aman Tabi, depuis la Aimuna, la confiance que tu as placée en moi, quand tu es allé après moi dans le désert, Masaotecha vechaniotecha, tous les allées les venues et les arrêts alpi que je t'ai commandé, et tu te rappelleras Biatra le roche Sinir vechermon, que tu es arrivé par les montagnes de Sinir vechermon au moment où les Israël se rentrent en Israël après la Yetziat Mitzrayim. Shayu monot arayot sichon veog, que c'était les monot arayot sichon veog. C'était la résidence de Sichon qui était hein?
Le roi d'Emor.
Voilà. Et Og, le roi de Bashan. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi on appelle ça Merosh Amana? Rosh, vous savez qu'en hébreu, Rosh c'est le début. Mais ça n'est pas seulement le début dans le sens de c'est le numéro 1 avant le numéro 2. Mais que Rosh, c'est le début dans le sens du commencement. Il faut aussi réfléchir pourquoi on appelle le roche le commencement. Je Je peux regarder quelqu'un en commençant par la tête et finissant par les pieds. Mais je peux aussi sûrement le regarder par les pieds et finir par la tête. Donc on n'a pas de raison de dire que l'un est plus le roche que l'autre. Et si roche veut dire début, quand on voit Bereshit, donc on est obligé de dire qu'il y a quelque chose dans la tête qui fait qu'elle s'appelle roche plutôt que les pieds. En français, c'est le contraire. On dit, on regarde quelqu'un des pieds à la tête. La tête, elle vient en dernier. Si c'est relié au mot Emouna, alors on doit comprendre qu'il y a une idée ici qui met en cause beaucoup de choses. Vous savez que pour nous, la Emouna, c'est, on a déjà dit souvent, c'est pas savoir que le monde a créé le ciel et la terre, ou qu'il existe un Dieu, ou que les choses ne sont pas seulement du hasard, c'est un tout. C'est une relation, une perception que quelqu'un a de la raison pour laquelle il a été créé, du but pour lequel il est créé. C'est la relation qu'on a avec Akadosh Baruch. Nous appelons ça Emouna. Dans l'idée normale que nous avons de la Emouna, ça n'est jamais une idée première. C'est toujours une idée seconde. Ça veut dire quoi? La Emouna, c'est la meilleure réponse aux besoins de l'homme. C'est-à-dire, moi j'ai besoin d'être bien. Le fait de croire qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde, que ce qui m'arrive, c'est pas le fait du hasard, c'est la meilleure réponse qui puisse exister au monde. Parce qu'on ne vit plus dans le domaine de la question, même s'il y a aussi des questions qui viennent de l'Aïmouna, mais une question qui est une question d'Aïmouna, ce n'est pas la même chose qu'une question qui est une question contre l'Aïmouna. Une, c'est un manque de savoir, alors que l'autre, c'est une mise en cause. Donc, la façon dont nous concevons normalement l'Aïmouna, c'est toujours en second, c'est jamais en premier. Moi, j'ai besoin d'être bien dans la vie, j'ai besoin d'être heureux dans la vie. La meilleure solution, c'est la Emouna. Comment je vais me fabriquer un petit olam haba? Comment je vais avoir des repères? Comment je vais être sûr de vivre dans quelque chose qui est vrai? Alors, la solution, c'est la Emouna. Mais c'est pas dit que la Emouna, c'est quelque chose de premier. Si vivre dans la Emouna, ça voulait dire que j'ai rien de tout ce qui fait que je suis bien, tel qu'elle n'existerait pas, cette Emouna. Lorsqu'il y a marqué ta shurim et roche amana, c'est tout bien du fait que l'Emouna est première. Pourquoi? Parce que cette Emouna n'a apporté que des problèmes au peuple juif. L'air de Rachar et Bamidba, il fallait aller dans le désert. Les Massaot, il fallait aller, il fallait s'arrêter, il fallait revenir 40 ans. Imaginez, on fait tourner un peuple 40 ans. 40 ans, c'est déjà la troisième génération. Alors la première génération, elle est sortie d'Égypte, bon, elle tombe. La deuxième génération, c'est déjà plus difficile. Bon, ils étaient petits. À la sortie d'Égypte. Ils peuvent se rappeler encore de quelque chose, ils sont proches. Mais la troisième génération, et puisqu'il est au bout de 40 ans, il n'en restait plus un seul, de la première génération, ça veut dire que on doit se trouver avec des gens qu'on fait tourner dans le désert, sans leur dire où ils vont, pour combien de temps, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. On leur dit qu'il faut rentrer dans l'Israël, il va falloir faire la guerre alors qu'ils ne sont pas équipés. C'est ça ce qu'on appelle une émouna première. Ça veut dire qu'elle ne solutionne en rien un problème. On ne peut pas dire qu'elle est seconde. Alors là, vous me direz, non, ça peut toujours être premier. Pourquoi ? Parce que la satisfaction intellectuelle est dans le vrai. Ça peut donner des forces à un homme d'encourir tous les tourments. Mais en vérité, c'est pas vrai non plus. Parce que la satisfaction intellectuelle, elle n'a pas de rapport avec l'Emouna. Au contraire, l'Emouna, c'est quelque chose qui perpétuellement donne une insatisfaction à la personne de son propre être. Et si justement ça lui donne une satisfaction, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que plus on a d'Emouna, et moins on est sûr de soi. On est peut-être sûr du système, mais on n'est pas sûr de soi. Et d'être sûr du système, ça n'encourage en rien, et ça ne facilite en rien la vie, dans le fait qu'on n'est pas sûr de soi. Un enfant à l'école, il est sûr du système. Les maths, il fallait avoir 20 sur 20. Ça ne veut pas dire qu'il est sûr de lui. Alors, il y a celui qui, pour être sûr de lui, il met en cause le système. Bon. Mais non, pas de quelqu'un honnête intellectuellement. Ce qu'il voudrait dire. Que si la émouna c'est quelque chose de premier, ça doit avoir un rapport avec l'être aussi. C'est pas quelque chose simplement d'intellectuel qui, on va dire, qui oblige l'homme à regarder les choses d'une telle ou d'une telle façon. C'est une attitude que de poser la émouna en tant que première. On va dire pire que ça. Il est possible que tout le combat de la vie, c'est de savoir quand est-ce qu'on réussit à mettre la émouna en premier et quand elle est seulement en second. Mais elle est toujours en second. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de celui qui n'est pas mamie. On va essayer de voir quelles sont les conséquences. Vous savez que le verset d'avant, c'est un verset qu'on a déjà vu, qui est plusieurs fois cité dans le Chirachim, « Kulach yafa rayati, kulach yafa umumenbar. »« Kulach yafa, tu es entièrement belle, rayati ma compagne, umumenbar, il n'y a aucun défaut. » On avait déjà expliqué une fois. Comment tu peux dire que le peuple juif n'a pas de défaut ? Ah, il y a deux réponses dans le village. Il y en a qui disent que c'était le peuple juif au moment du Har Sinaï, au moment du Mont Sinaï. Ok. Mais une deuxième explication dans le Midrash, qui dit que Afilu Reikanim Shebach Melei Mitzvat Kerima. Même les gens vides du peuple juif, Melei Mitzvat Kerima, on peut les considérer comme pleins de mitzvot, comme le rimon. Plein de grains. Alors, essayez de comprendre. On a déjà dit que si on essaie de savoir qu'est-ce qui est premier, au niveau du Yetzera Tov ou du Yetzera Ra. Yetzera Tov, on va dire, le désir positif. Yetzera Ra, c'est le désir qui ne sert à rien, ou qui est négatif. Qu'est-ce qui est premier ? Alors on a expliqué qu'en hébreu, le mot neshama en vérité incluait trois choses, nefesh, ruach et neshama. Nefesh, c'est la personne, c'est le niveau le plus bas, l'individualité, ce qu'on appelle le jeu. J'ai envie d'eux, j'ai besoin d'eux, je suis tel et tel. C'est le niveau le plus bas. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle Rouar. On a dit que ça c'est le tu. Lorsque on s'adresse à soi-même, mais déjà de l'extérieur, tu devrais. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Celui qui parle, le je qui parle là, s'appelle Rouar. Neshama, c'est le il faut que, il est vrai que, ça veut dire que l'homme lui-même n'est plus en cause. C'est même pas par rapport à lui. C'est par rapport à ce qui est vrai pour lui. Par rapport à ce qu'il a construit, par rapport à ce qu'il voit. Mais lui-même ne se voit plus voir. On appelle ça la neshama. Tout ensemble s'appelle aussi neshama. Si je regarde qu'est-ce qui est premier, je, tu, il est évident que c'est le il qui est premier. C'est pas le je ni le tu. La preuve, c'est que ce qui s'exprime en je, souvent je l'exprime en tu. Je dis tu. Donc il n'était pas le premier. Puisque j'arrive à le voir de l'extérieur. De ce jeu, donc il est à l'extérieur. C'est quelque chose qui est premier par rapport à lui. Et ce tu vient d'une façon de voir, qui est la façon que j'ai moi de concevoir les choses. Donc il va en premier. Donc le vrai premier, c'est le il. Ça veut dire que le Yetzer HaTov, il est premier, et le Yetzer HaRa, il est dernier. Et non pas le contraire, bien que le Yetzer HaRa s'exprime dans le langage « je », il n'est pas premier. C'est le Yetzer HaTov qui est premier. C'est écrit dans la Gemara, dans le traité de Brachot. La Gemara le dit sur le verset Zvouv et Mavet Yavish, le Yetzara et le Yoshev Bemaftoche Alev, chez Neymar la Petachata Trovetz. Le Yetzara, il est tapis à la porte du cœur. C'est le cœur en lui-même, il s'appelle il. Seulement, il s'adresse à quelqu'un, celui qui est à la porte, le moi. Et là, commence le Yetzara. Donc ce qui est premier dans l'homme, c'est pas le Yetzer HaTov, le Yetzer HaRa, mais c'est le Yetzer HaTov. C'est vrai qu'on peut abîmer cette vision du Yetzer HaTov, ou on peut plutôt l'occulter, on ne peut pas l'abîmer. On peut le faire de plus en plus petit, mais il y a quand même des moments où un homme retrouvera ce qu'on appellerait sa neshama, et où lorsqu'il ne sera pas occupé par lui-même, il va retrouver une vraie vision des choses. C'est ça qu'on a cité le Chazon Ish qui dit que la Emouna, c'est quelque chose qui existe dans l'homme lorsque Sha'at ou Sha'at HaSheket, lorsque son heure, c'est une heure de calme, de repos. Chopshi, libre, miravan tavan. C'est libre, miravan. De la faim, tavani, du désir. Lorsque quelqu'un est libéré de cette faim qui est la faim du désir, alors commence la émouna. Ou se libère la émouna. Je dis, mais c'est pas vrai. Je suis tout le temps ma'amine. Je dis, oui, tu es tout le temps ma'amine. Mais tu ne vois pas les choses selon le il, selon la émouna. C'est en ça que le Yetzera Tov est premier, et le Yetzera Ra n'est que secondaire. C'est ce qui a marqué dans le verset, Kularia Farayati ou Moumen Bach. Dans toi, Bach, il n'y a pas de monde. Pourquoi? Parce que si vous avez bien regardé les lettres de Bach, c'est les 22 lettres qui désignent quelquefois Kadosh Baruch Hu et quelquefois l'homme. Et marqué Nagila Venismacha, Bar. Bar, c'est dans Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la seule expression que nous connaissons de ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui est exprimée en 22 lettres. Bar, quelquefois c'est l'homme. C'est ça le lien qui existe par l'intermédiaire de l'Anshama entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que ça veut dire Bar. Bet, Kaf. Les 22 lettres de l'alphabet. Donc de même que l'homme doit pouvoir exprimer une émouna qui est première et non pas seconde, de même, il doit savoir que chez lui, le Yetzera Tov et premier et non pas second. C'est-à-dire que si tu regardes lui, lorsqu'il s'adresse à lui-même en tant que il, alors à ce moment-là, il est entièrement tov. Kulach yafarayati. On va aller plus loin. Si quelqu'un arrivait à vaincre le rat qui est en lui-même, alors il n'aurait plus de frontières dans sa émouna. C'est la raison pour laquelle il est marqué que la Kedusha, ça amène au Ruach HaKodesh. La Kedusha, on appelle ça la sainteté, mais en vérité, ça veut dire le fait d'être séparé de ses propres désirs, d'en être indépendant. Ça amène à ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, la compréhension des choses au-delà du raisonnement intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de frontières. Parce que les choses sont obligatoirement claires. Si les choses sont claires, on peut voir énormément plus de choses. Que nous appelons Emouna. Savons la difficulté, c'est que l'Emouna est toujours seconde. C'est que c'est une solution. Comment vivre bien avec soi-même? Quand on est marmine, on vit bien. On a une certitude. Mais l'Emouna n'est pas faite pour ça. C'est ça le sens du verset Tashuri Merosh Amana. Merosh Seigneur Vechermon. Rashi dit Mireshita Emuna Sheaman Tabi Lechtecha Raev Amidor. Si tu regardes, tout commence par ça. Est-ce qu'un homme est d'accord d'aller avec Akadosh Baruch Hu dans le Midbar, dans le désert? Mais s'il n'est pas d'accord, et qu'il stoppe sa émouna ou une occulte au point qu'elle soit un confort pour qu'il puisse exprimer ses désirs d'une façon satisfaisante, alors à ce moment-là, la force de cette émouna est perdue. Maintenant, on va essayer de comprendre que c'est ça ce que ça veut dire que la shrimta de Galuta, la shrima, elle est en galut. Il y a deux façons pour un homme de concevoir la présence divine. En vérité, on dirait même qu'il y en a trois. Il y a d'abord la vision, comme ça dit le Gaon de Vilna. Il y a la vision. Je vois. Il y a des gens qui ne veulent pas voir. C'est déjà une madriga de voir. Les Égyptiens n'ont pas voulu voir. Les Bnei Israël ont voulu voir. La façon dont Akadosh Baruch Hu s'est exprimé envers Abraham, Israël et Jacob, jusqu'après la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël, ça, c'est une émouna qui vient de la vision. C'est qui a marqué Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Melech Mitzrayim. Je suis celui que tu as vu en Mitzrayim. La prophétie, le fait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme, c'est cette première émouna. C'est quelque chose qui passe par les sens. Il y a une deuxième émouna, celle qu'ont vécu les Bnei Israël depuis leur rentrée en Eretz Israël jusqu'à la fin du premier temple. C'est moitié-moitié. Ça veut dire qu'on vivait sur du miracle. Si vous lisez tout le Tanakh, toute la Bible, à partir de Yoshua, vous verrez une fois comme ça, une fois comme ça. Mélangé. Il n'y avait plus de man, mais il y avait des prophètes. Il y avait tous les nissim, tous les miracles qui se produisaient dans le Beth-Amikdash. Et à partir du second temple, tout ça s'est terminé. À ce moment-là, commence le règne de la galoute, l'intellectuel. Les choses ne peuvent plus passer par une quelconque perception, mais elles ne peuvent passer que par la conception que moi j'ai des choses. Si je veux, je vois, si je veux, je vois pas. Tout dépend entièrement de moi, il n'y a plus de perception sensible. On appelle ça la galoute. Mais celui qui comprend, il voit bien que les trois niveaux, ce sont des niveaux dans la perception que l'homme a de la présence divine. Mais ce ne sont pas du tout des niveaux dans la présence divine. Ça, ça reste la même chose. C'est la faculté de conception qu'on en a. Comme ça a dit le Gaon de Vilna. Shrinta begaluta, ça veut dire que de même que dans la galoute, Le peuple juif ne s'exprime plus dans une indépendance qui fait qu'il est maître de la situation. Demain, Makadosh Baruch Hu, aux yeux du peuple juif, ne s'exprime plus dans une indépendance qui montre qu'il est maître de la situation. C'est la raison pour laquelle Agmar, dans le traité de Yuma, nous raconte que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fondé sa prière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que nous nous reprenons dans l'Amida, il a dit Agadol, Agibor, Anora. Celui qui est grand, Gibor, celui qui est fort, et Nora, celui qui est redoutable. Sont venus d'abord le prophète Jérémie. Il a enlevé Agibor. Pourquoi ? Parce qu'il a dit Aïe Gevurotav. Il dit on voit la destruction du temple, on voit l'exil de Babylone. On ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu a combattu quoi que ce soit. Et venu le prophète Daniel, il a enlevé Anora. Il a dit Aïe Nora Otav. Il dit personne n'a peur de lui. Tu vas sur le Kodesh HaKodashim et tu rencontres Shualim Yel Khubam. Shualim, ce sont les chacals. Il dit, il n'est pas si redoutable que ça. Et Agmar a dit, il avait raison d'enlever. Baou Anche Knesset Agdola. À la fin du second temple, lorsque la véritable galoute allait commencer pour de bon, alors ils ont rajouté de nouveau Agibor et Anora. Sont avec un autre sens. Gibor, il est tellement fort qu'il n'a pas besoin de lutter contre ses ennemis. Nora, il est tellement redoutable qu'il sait se taire devant l'affront. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusque-là, on avait le droit de prendre les choses au sens littéral. Gibor, c'est Gibor. Nora, c'est Nora. À partir de la galoute, on est obligé de prendre ces choses-là dans un langage d'Emouna. Parce que la galoute, la grandeur, elle peut autant s'exprimer dans celui qui sait se taire que dans celui qui sait parler. Sauf qu'une fois, c'est montré preuve d'indépendance, et une seconde fois, c'est centre la preuve de l'indépendance. Mais les deux, ça a la même force. Ça, c'est ce qu'on appelle Shrinta Begaluta. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se prive de s'adresser directement à l'homme. Un jour, on a demandé à Rav Etzraïm ce que Rachid dit ici, c'est un verset. Bechol tsaroteam lo tsar. Lorsque vous êtes dans l'impasse, lui aussi est dans l'impasse. Il dit, comment je peux comprendre que le monde est dans l'impasse ? Moi, je suis dans l'impasse parce que j'ai des besoins, je ne peux pas les satisfaire. Mais le monde est dans quel est impassible. Il avait prévu ça, et il va se retourner de l'autre côté. Si moi j'avais fait le monde, et que j'avais dit une fois comme ça, il n'y a plus d'impasse. Alors il a répondu, le Rav Israël, il a dit ceci. Il est chacun quand lorsqu'il a un ami, et qu'il voit son ami en grand danger, il éprouve une immense difficulté. Si on lui dit non pour son bien, il ne faut pas le lui dire. Il doit s'en sortir tout seul. Et s'il arrive à le faire, ça s'accompagne en général d'une négation des droits de l'autre. En général. On donnera un exemple tout à l'heure. Mais sinon, on a l'impression qu'on manque dans notre rôle, dans notre devoir, bien qu'en fin de compte, c'est quand même le devoir final. Donnez un exemple. Aujourd'hui, les professeurs sont beaucoup plus laxistes qu'avant. Ça veut dire quoi? Si un enfant il n'arrive pas bien dans une interrogation, le prof vient à côté de lui, il lui dit une partie de l'exercice. C'est pas bien. Parce que c'est vrai qu'il est frustré de voir que l'autre ne réussit pas. Mais il a besoin d'être indépendant, laisse-le. S'il ne sait pas affronter des difficultés, quand est-ce qu'il pourra le... C'est pas bien. Mais ça s'accompagne de l'autre côté. D'une perception du droit d'un enfant et du droit à ce que l'enfant soit une personne humaine. Parce qu'il y a 100 ans, ça n'existait pas, un professeur qui donne. Mais l'enfant, pour lui, n'existait pas non plus. Donc c'était très facile de ne jamais souffler un enfant. Puisque même quand il pleurait, on ne l'écoutait pas. Même quand on avait une demande, elle n'existait pas. Il n'avait pas de droit, cet enfant-là. C'est un objet. À partir d'où on a commencé à lui donner des droits, on affaiblit sa relation avec lui. Akadosh Baruch Hu, il veut donner tous les droits à l'homme, celui d'arriver au plus haut, au plus haut, au plus haut. Et d'un côté, il est obligé de se restreindre et de ne pas l'aider d'un pouce. Et ça, ça s'appelle la galoute Hashrim. C'est la même chose avec les parents. Aujourd'hui, c'est rare qu'un père ou une mère voit un enfant dans la rue qui est en train de tomber et qu'il dit c'est pas bon, ça fera du bien. Ou les enfants, quand ils sont petits, on les entend hurler, on dit c'est bon pour les poumons. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on passe des nuits blanches pour ces enfants. Il y a 100 ans, on disait tu le mets dans la chambre la plus loin de chez toi, comme ça, tu es sûr de ne pas l'entendre. Quelle est la vraie solution? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il faut avoir du cran de faire ça. Comment quelqu'un peut éloigner son enfant au moment où il a dit ça? Alors on a fait ce reproche-là à Agar, que ce n'était pas une mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis à Hek Kimtach avec Eshet, qui amra, l'Oire Bebota Yelet. Elle a mis loin, 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 comme si elle ne voit pas sa mort. Pourquoi? Parce que ça t'embête dans ton confort de voir la mort de ton enfant. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Si ces forces-là existaient avant, c'est pas que c'était des gens qui arrivaient à une emprise sur eux-mêmes d'une façon surnaturelle. C'est parce que même le droit à l'existence de l'enfant était mis en cause. Ou en tout cas le droit à un quelconque confort. Parce qu'il n'a pas le droit de parler non plus. Quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas le droit de parler, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il crie? Mais quelqu'un, quand vous êtes toujours derrière lui, dès qu'il parle un mot, on dit tiens, tiens, il s'exprime. Alors peut-être quand il crie aussi, il s'exprime. L'un ne va pas sans l'autre. Shrinta Begaluta, Parce que Rashi dit, Betzarater, l'Otsar, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il est tsar. Il est tsar dans la Hanaga. Parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas se soucier d'un souci absolu de l'existence de l'autre. Et d'un autre côté, le laisser tomber et dire, c'est à l'autre de me percevoir, moi, je fais rien de mon côté. Même pour Akadosh Baruch Hu, cette façon de diriger le monde, ça s'appelle tsar. Donc si on continue à raisonner selon ce schéma-là, et de dire ce qui a marqué Iti Milvanon Kala, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, c'est ce que s'appelle le Vanon, parce que Malbin Avonotem chez Israël, le Vanon, c'est du langage blanc, ce que Malbin. Malbin, ça veut dire rend blanc, blanchir. Avonotem chez Israël, les fautes du peuple juif. C'est le sens de l'expiation, de la faute. Iti mi levanon. Akadosh Baruch Hu l'accompagne le peuple juif depuis le levanon. Mais aussi, iti mi levanon tavoi. Si Akadosh Baruch Hu, il revient depuis le début, il ne croit pas qu'il y ait une éclipse dans l'histoire. De son côté, c'est faux. C'est de ton côté. C'est toi qui n'as pas su percevoir. Mais lui, la façon dont il s'est comporté, il a eu le même souci. Ça, il n'a pas pu te le montrer. Il veut percevoir ces choses-là. Alors, il faut que la Emouna, elle soit première dans la Galoute comme elle a été depuis le moment où les Israélites sont sortis d'Égypte. Comment est-ce possible que la Emouna soit première? Alors, la nature elle-même, elle est de se soucier de soi avant tout autre souci. Et donc la Emouna, c'est aussi un souci de soi. C'est un souci de bien s'en sortir. Mais si on dit que c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a ici une fin et un moyen. La fin, c'est le souci de soi, et le moyen, c'est l'aïmouna. Et ça, c'est pas possible. C'est le contraire. La fin doit être l'aïmouna, et le moyen, le souci de soi. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention dans la vie d'avoir le confort nécessaire du Rambam, d'avoir la nourriture adaptée, d'avoir un sommeil qui est assez long. Parce que sinon, il te manquera dans la avoda taboreli. Il te manquera dans tout ce que tu peux faire, de ce que tu es obligé de faire pour Akadosh Baruch Hu. D'avoir cette attitude assez difficile. Pourquoi c'est difficile? Justement parce que le souci d'Akadosh Baruch Hu, c'est que moi je sois bien. Donc je vais aussi faire entrer ce souci-là. Donc la Emouna revient toujours seconde. Sans ça, c'est un souci illégitime. Ça, c'est le souci du bon Dieu, c'est pas le tien. On va aller plus loin que ça. C'est dans une relation humaine de n'importe quel type. je sens que l'autre va à ma rencontre. Alors j'ai envie d'aller à sa rencontre. Mais si je sens qu'il allait à ma rencontre juste pour être bien, je suis pas un pion. Donc on n'arrive pas. On voudrait sentir que l'autre fait quelque chose pour moi. Mais si on sent qu'il fait pour moi parce que ça lui fait plaisir, on a tout perdu. C'est comme quelqu'un qui vous offre un cadeau. Alors vous êtes gêné, vous dites non, il ne fallait pas. Il vous répond la réponse la plus bête du monde, ça m'a fait plaisir. Alors normalement, ça devrait être l'autre beaucoup plus dans la gêne. Pourquoi ? Parce que si tout le but de l'opération, c'est ça t'a fait plaisir, tu aurais pu trouver un autre moyen pour te faire plaisir. Tu n'es pas obligé de me mettre dans l'image. On n'est pas obligé de devoir à quelqu'un après quelque chose, tout ça parce que ça lui a fait plaisir. Ce type-là de relation, on peut le concevoir avec des hommes. De le concevoir avec Akadosh Baruch Hu, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais on doit aussi le concevoir comme ça. Maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'un certain type d'homme ont des relations avec les autres qui sont centrées vers le but final d'être bien eux-mêmes et que d'autres ont le vrai souci de l'autre et qu'on sent qu'on est obligé de prendre leurs soucis en main, sinon ils n'ont pas leurs propres soucis. Pourquoi un certain type d'homme comme ça ou comme ça? Et pourquoi dans une vie, il y a des instants comme ça, des instants comme ça? D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'une seule chose. Quelle est la émouna qui sous-tend le geste? Il y a des gens qui sont capables de se sacrifier pour les autres, pour une cause, sans penser à eux un seul instant. Parce que c'est sous-tendu par une émouna que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on dit que le « il » est premier. Parce que si c'était le « je » qui était premier, tout se ramènerait toujours à ce jeu-là. Quand on pense qu'il faut que, après tout le reste, c'est les moyens. Les moyens, c'est pas important. Mais quand on pense j'ai besoin de ou je veux que, tout le reste, ça devient des moyens vers ce but-là. C'est-à-dire que les plus grandes idées, elles peuvent être au service des plus petites personnes. Ça n'en est pas question. Donc comme ça, on peut comprendre les psukim. Kulach yafarayat yubu menbach. Ce qui est premier chez l'homme, c'est sa émouna, sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Iti milvanon kala, iti milvanon taboui. Si c'est comme ça, quelqu'un il peut arriver à, dans toute son histoire, quel galout qu'il subisse, il peut arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu participe exactement de la même façon et que c'est qu'une question de perception. T'as chou, Miroch Amana, Miroch Sinon Vichermon. Si tu veux voir d'où est-ce que vient cette force-là, c'est seulement si on met l'aïmouna en premier. Ça, ce qu'on appelle une avoda. De pouvoir vivre selon le il, et pas selon le jeu. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est saint d'esprit, qui est équilibré, et quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que le plus grand déséquilibre de la personne, c'est lorsqu'il n'y a plus rien du il. Tout passe par le jeu. C'est-à-dire que c'est devenu tellement fort que ça occulte tout le reste. Il est possible qu'on puisse beaucoup, on puisse régler beaucoup de problèmes. En se faisant aider. Tout simplement par avoir cette démarche-là, qui est de retrouver un équilibre, où quelqu'un n'est pas obligé de parler toujours de je ni de tu, mais qui puisse être équilibré même lorsqu'il parle que de il. C'est-à-dire que l'homme parfait, ce serait celui qui arriverait à faire toujours ce qu'il faut. À partir du moment où quelqu'un essaie de pratiquer les mitzvot, il essaie d'avoir une relation saine avec sa émouna, il est obligé tout doucement de se voir monter sur cette pente. Sinon, c'est que la émouna n'est pas première. Ok, il y a sûrement des questions.
Sur le fait que le Yetzirah Tov est premier par rapport au Yetzirah Hara, comment ça se passe? Je crois qu'on dit que l'enfant est, il n'a que le Yetzirah Hara et que le Yetzirah Hara...
Non, je ne parle pas dans le temps, moi.
Hein? Oui,
je ne parle pas dans le temps.
Comment ça se...
Je ne parle pas dans le temps. Quelqu'un qui s'occupe que de lui-même et qui ramène tout à lui-même, c'est sûr qu'il est entièrement rat. C'est-à-dire que l'intendance, elle doit servir à vivre, mais si elle ne sert que à l'intendance, c'est un circuit qui tourne en rond, il n'amène rien à personne. Donc ça c'est sûr. Nous on ne parle pas dans le temps. Il est marqué dans les Sfarim, le Shla il le ramène, qu'à 13 ans on reçoit une Neshama. Alors les Sfarim demandent, si c'est comme ça, pourquoi avoir fait vivre l'homme pendant tellement longtemps en sang? La, la, la réponse, elle est très, très facile. C'est que si ça avait été le contraire, le rat, il n'aurait aucune prise. Si ça avait été le contraire, le rat, il n'aurait aucune prise. Bon, il faut savoir que jamais rien n'est simple. Tout est à double tranchant. À partir du moment où un enfant sort de l'enfance, où c'est simplement ses petits désirs qui sont les moteurs, il est capable de ne regarder que sa émouna et il juge les adultes d'une façon très péjorative parce que ce sont des gens qui se compromettent tout le temps et qui ne sont pas entièrement bons mais entièrement méchants. C'est-à-dire qu'au moment où cet enfant reçoit cette neshama, quand il est jeune, il est entier. Sakhar Fadi qui a marqué qu'un enfant, pour lui, le Olam Haba, le monde futur, l'avenir, c'est quelque chose de très très loin. Pour lui, un jour, c'est long, il s'ennuie. Il faut l'occuper. Un mois, c'est... Quand il parle d'un an, pour l'adulte, c'est le contraire. Le jour, c'est les secondes de l'enfant. Les années, c'est les jours de l'enfant à la fin. Donc d'un côté, l'adulte, il est plus proche de l'aïmouna. Mais de l'autre côté, l'enfant, il ne sait pas mentir. Alors que l'adulte, il a appris pendant toute sa vie à mentir. Alors ça fait que l'équilibre est revenu. Et quand quelqu'un est jeune, quand il n'a pas encore appris à mentir, il a une haine du monde des adultes, qui est un monde de compromis, de mensonges. Et même lorsque le mensonge est utile et nécessaire, il n'arrive pas à le comprendre. Jusqu'à ce qu'ils grandissent un peu, et qu'ils comprennent que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et qu'il faut aussi être intelligent dans la vie, il ne faut pas juste être impartial. Parce que l'enfant, c'est le juge de la société, de ses parents, de tout ce qui est autour. C'est le juge le plus impitoyable. Pourquoi ? Parce que il a ce « il ». Ah, c'est vrai que c'est un changement radical avec ce qu'ils étaient encore quelques mois, quelques années avant. C'est vrai. Ah, il pense qu'à lui. Mais à un moment ou non, c'est terminé. Peut-être s'il n'y avait pas, dans le temps, tout ce rat qui était avant, ce serait un homme qui n'aurait plus de libre arbitre. Donc il est obligé d'avoir des résurgences naturel de ce rat pour remettre les pendules à l'heure. C'est que c'est dommage que les enfants deviennent adultes ou que les jeunes deviennent adultes. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire parce que la jeunesse, elle est trop précieuse pour rester dans la main des enfants. Donc il faut aussi la donner dans la main des adultes. Donc c'est ça qu'il faut devenir adulte.
Très simple, quelle est la différence entre la
Emouna
et la foi pour les chrétiens?
La Emouna, c'est une lutte, et la foi, c'est la grâce. Une lutte, c'est quelque chose de difficile. La foi, c'est une grâce. Ouais. Sûrement.
C'est-à-dire que chacun, selon la connaissance qu'il a d'une point de vue logique, dès qu'il arrive à un moment où il ne comprend plus, c'est la Emouna qui prend le relais et qui arrive donc à pallier à cette logique qu'il ne peut plus comprendre à quel moment.
Ça, c'est encore une autre définition de la Emouna. Mais attention, on a besoin aussi de Emouna quand on comprend. Sauf que c'est plus facile quand on comprend.
Dans ce sens-là, il y a 100 ans, quand on mettait les enfants loin, on disait qu'un ange veillait sur eux, qu'on avait les mounades, d'accord, le Jorko, et que les enfants ne risquaient rien. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'autre à travers les mounades? Est-ce que je peux, pour régir mes rapports à l'autre, dire que l'autre aussi est sous la mounade, d'accord, le Jorko? Comment faire?
Je vais vous dire. Si c'est quelqu'un dont je n'ai pas la responsabilité, et dans le chemin croise le mien, Alors, j'ai le droit de dire, il a chacun, il a sa hashgacha. Mais si c'est quelqu'un dont on m'a donné la responsabilité de la conférer à un ange qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, dont on ne connaît pas les capacités, c'est quand même pas gentil. Ouais, on peut tout faire, mais c'est de voir. Je vais vous dire, la différence, elle est grande. Il y a marqué dans le Chida a vécu il y a près de 300 ans. Il y a marqué dans le Chida qu'on reconnaît un Gadol B'Israël. Parce qu'un Gadol B'Israël, il parle avec un enfant comme avec un adulte, et il se soucie de l'enfant beaucoup plus que ce qu'on se soucie d'un adulte. Alors que les Pshut et Aram, ils parlent avec un enfant comme on parle avec un enfant, et ils se soucient d'un enfant moins qu'on se soucie d'un adulte. C'est-à-dire que déjà, il remarquait qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien. Nous, on n'est peut-être pas les pires. Il y a encore pire que nous. Mais, quand même, il y a toute une littérature qui essaie de dénigrer ce qu'on appelle la femme juive. Celle qui se soucie de l'enfant, celle qui... Bon, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de se soucier de quelqu'un et de jamais lui souffler. Donc on lui souffle de temps en temps. Maintenant, d'avoir cet équilibre-là, c'est ça qui fait. C'est la chokhma de chacun, ça. Ouais. Je vous dis tout de suite, on ne se réfère jamais au Avot parce que nous, on parle du peuple juif. Les Avot, ce n'est pas le peuple juif. On parle après le Matan Torah ou au moment du Matan Torah. Au moins à partir de la sortie d'Égypte. S'arrête. C'est vrai. Mais c'est pas dans le même sens. Le mot Emouna n'est pas pris dans le même sens. Ce que moi j'appelle Emouna, ici, c'est le fait d'avoir une perception du monde qui est vraie. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas tout. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de l'Emouna là où l'intérêt s'arrête, ça veut dire que on a besoin d'avoir confiance là où l'intellect s'arrête. Mais ici, on ne parle pas de l'aïmouna seulement en tant que confiance, on parle de l'aïmouna en tant que système de perception de toutes les choses de la vie. Et ça ne passe pas toujours par la confiance. Vous comprenez? Aïmouna veut dire confiance, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi croyance. Ça veut dire que il y a des choses que je dois percevoir même si ce n'est pas un problème de confiance. Pourquoi on prend l'habitude surtout de dire Emouna confiance? Parce que le manque d'Emouna se remarque le plus lorsque commence un problème de confiance. Ça que dans le mot Emouna, il y a le mot confiance aussi. Mais aussi le mot croire. Pas seulement avoir confiance. Et le mot croire, quand on croit en quelqu'un, c'est pas seulement qu'on a confiance en lui, mais c'est qu'on voit aussi qu'il y a un but. Il y a quelque chose de valable. C'est pas seulement avoir confiance. Vous comprenez? Il y a les deux connotations. Sans travail. Ce qu'il a, c'est des connaissances. Les connaissances, elles facilitent le travail parce qu'on a des ustensiles. Mais un enfant, quoique qu'il ait comme perception, il mettra toujours l'aïmoun en second. C'est-à-dire que ce qui est sa vraie recherche, c'est de son équilibre et de s'en sortir. Parce qu'il est encore enfant. Et c'est son droit. C'est le but de l'enfance. C'est de pouvoir avoir l'habitude d'acquérir ses droits et de s'en sortir dans la vie, dans l'utilité. Mais là, il y a un moment où il va falloir dépasser ça. De faire passer l'aïmoun en premier, ça c'est une avoda, ça ne vient pas naturellement. Maintenant, c'est vrai que plus on a vu des choses, meilleur on a reçu l'éducation. Et plus ces choses, elles sont évidentes, et moins elles ont besoin de travail. Mais alors, il y a d'autres choses qui ont besoin de travail. Ça s'arrête jamais. Entre celui qui a reçu une bonne éducation et celui qui n'en a pas reçu, il n'y a de différence que le point de départ et le point d'arrivée. Quelqu'un, il peut partir de moins 10, l'autre, il peut partir de plus 50. Mais s'ils ont parcouru le même chemin, ils auront le même mérite. C'est plus agréable par rapport au bon Dieu de faire partir ses enfants à plus 50 plutôt qu'à moins 10. Parce qu'on a des devoirs vis-à-vis des autres. Mais en vérité, pour lui, ça changerait.
Si un enfant est dans un milieu religieux, totalement religieux, qui suit les principes de ses parents, d'ailleurs, c'est plus facile d'avoir la lumière, puisque...
Non, c'est possible que ce soit très difficile de suivre aveuglément des principes des parents. Que je vous donne la preuve. Il y a plus de gens qui sont sortis du peuple juif de leur propre liberté que de gens qui y sont revenus. Il y a plus d'orthodoxes dont les petits-enfants sont des libéraux, parce que vous savez, quand vous voyez un juif libéral, ça n'existe pas un grand-père libéral. Grand-père libéral, c'est que vous êtes goy. Mais lorsque vous voyez un enfant qui est libéral, c'est que son grand-père était orthodoxe. C'est très très rare, les juifs orthodoxes dont les grands-pères étaient libéraux. C'est l'exception. C'est-à-dire que la tchouva, elle existe. Mais il ne faut pas croire que les choses élevées naturellement, on a eu des enfants, et puis ça y est. Vous comprenez? C'est pas si facile que ça. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans une boîte de conserve. Il y a un moment où il sera devant le choix. Le choix, il sera aussi difficile pour lui que pour l'autre. Il sera d'une autre nature. C'est un choix à la baisse, alors que l'autre, ça peut être un choix à la hauteur. Mais le choix à l'air. L'éducation n'a pas pour but d'enfermer les enfants. Il a pour but de leur donner les ustensiles pour qu'ils les aient à la disposition. Il n'en a pas pour but d'enfermer. Absolument. Absolument. Mais il est possible que le jour où il aura ce problème-là, il sera beaucoup plus attiré par ça que ce que l'autre qui était dedans a eu comme facilité de le rester. C'est que la lumière, ça attire tout le monde. Mais ça n'attire que ceux qui sont dans l'obscurité. C'est ça qui a marqué à propos de Rivka et de Yitzhak, que les deux ont prié, et Akadosh Baruch Hu a répondu à Yitzhak, Vayater lo Hashem. Rachidi enodome tfila tzadik ben tzadik le tzadik ben racha. La tfila du tzadik, fils de tzadik, elle ne ressemble pas à celle du tzadik ben racha. Tout le monde demande c'est le contraire. Le tzadik ben racha, la tfila est encore beaucoup plus difficile, elle est encore beaucoup plus méritoire. Et pendant, c'est pas vrai. La tfila du tzadik ben racha, elle est évidente. Parce que quelqu'un qui était dans l'obscurité, dès qu'il aperçoit la lumière, il est tellement attiré qu'il faut des réticences énormes. Donc Rivka, lorsqu'elle a rencontré Yitzhak, de devenir comme lui, c'était pas difficile pour eux. Mais Yitzhak, qui a eu un père comme Abraham, il était quand même Yitzhak, ça, c'est presque de l'impossible. Donc il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Celui qui est dans la lumière ne se rend pas compte qu'il est dans la lumière. Au contraire. Il essaye de voir dehors. Donc il ne faut pas croire que c'est facile. Comme du genre, mettez vos enfants dans une école juive et on aura tout résolu. Oui. Je veux dire très simple. La Neshama, c'est une partie divine. Mais c'est une partie d'une volonté divine. C'est pas une partie de l'existence divine. C'est-à-dire que le monde ne vous cède rien quand il vous donne une Neshama. Mais il vous exprime une volonté qui est en vous. On dirait la volonté de vivre. Elle vient pas du jeu, elle vient du huile. Parce que même lorsque le jeu est complètement cassé, il y a quand même une volonté de vivre qui reste. Il faut savoir que cette volonté-là, elle a été distribuée en 600 000, ce qu'on appelle les 600 000 de Shamot, qui étaient au Mont Sinaï. Elle peut se subdiviser encore, et une de ces 600 000 peut servir à des milliers d'autres. On dit que lorsque la Neshama est jugée, c'est ça. Ça veut dire, est-ce qu'elle a accompli son tahlit? Est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout de ses possibilités? On n'est pas allé jusqu'au bout. Si elle n'est pas allée jusqu'au bout des possibilités, on est obligé de revenir et que quelqu'un d'autre l'utilise. Ça veut dire ce qu'on appelle le nefesh. Parce que le gouf, bon, on va dire que c'est l'outil le plus bas, donc il n'existe plus un moment. Bien qu'il a une utilité, puisqu'on parle de triatamétine, alors qu'on n'aurait pas vraiment besoin. Donc il y a quand même une utilité. C'est-à-dire que tout ce que le monde Dieu fait, il n'y a pas de rejet absolu, de rejet total. Ou au moins dans un certain monde. Possible qu'après ce soit encore une étape. Mais en tout cas, à partir du moment où ce que nous appelons la personne qui est jugée, c'est le Nefesh, la Neshama elle-même, elle peut revenir et avoir besoin, c'est ce qu'on appelle le Gilgul Neshamot, avoir besoin d'accomplir de nouveau ce qui n'a pas été accompli par les prédécesseurs. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Donc, lorsque je parle de la mort, je ne parle jamais de la Neshama. Parce que c'est une volonté divine. Elle n'a pas ni de création ni de mort. Je parle du Nefesh. Le Nefesh, c'est-à-dire l'individualité. Ou même du Ruach. C'est ça qui est marqué. Va Ruach Tashuv El Afar. Mais après, il n'y a plus besoin du Ruach. Le Ruach aussi est à l'instancier. Le roi, c'est ce qui fait la relation entre le Nefesh et la Neshama. Il y en a qui appellent ça l'ego. Il y en a qui ont un ego fort, il y en a qui ont un ego pas très fort.
C'est-à-dire que vous avez
600 000 volontés différentes dans l'accomplissement des choses dans le monde. Chacun aura une différence. Non seulement ça, mais les tendances de la Neshama qu'on a, elles doivent être différentes chacune des autres. Sinon, pourquoi 600 000? Il n'y a qu'à en faire une. Donc les tendances doivent être différentes. Donc je ne veux pas demander des comptes à celui-là comme je demande des comptes à celui-là. Dont nous avons. Non, attention. Nous, ce dont nous avons parlé, Mouna, ça veut dire de mettre ses actes en accord avec ses certitudes. C'est de ça, c'est comme ça qu'on appelle Emouna. La Emouna, elle part d'une certitude, elle part d'une évidence qui vient du plus profond de la personne. C'est ça que l'on a dit deux choses. Si la Emouna est seconde, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le souci de moi-même, et pour être bien dans la vie, il faut que je me trace un avenir, et la meilleure solution du monde, c'est la Emouna, alors à ce moment-là, on parle de certitude ou d'incertitude. Mais si la Emouna, elle est première, c'est pas la solution que j'ai trouvée à mes problèmes. C'est l'évidence qui fait que je suis obligé d'aller selon ces choses-là. Alors je pars d'une certitude. Maintenant, dans cette certitude-là, je peux avoir mille incertitudes dans la façon d'appliquer cette émouna-là. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Je ne suis pas dans le bon chemin. Mais ces incertitudes dépendent de ma chokhma. C'est possible que quelqu'un qui serait plus intelligent que moi n'ait pas ces incertitudes-là. Il est possible que quelqu'un vécu à une autre époque n'ait pas ces incertitudes-là. Ça veut dire que ces incertitudes, ce sont des choses qui ont un rapport qui peut être personnel avec moi, mon époque, ma génération, mon genre. Alors que la certitude du fait que c'est Dieu qui dirige le monde et que chaque chose ait un sens, elle ne vient pas de l'intellect, elle vient de beaucoup plus profond que ça. Donc nous, on part d'une certitude. Et on dit, cette certitude, où tu l'appliques? Comment tu l'appliques? Alors, si elle est première, c'est qu'elle ne vient pas pour résoudre mes problèmes. Donc le jeu, il est toujours en seconde position. C'est de cette façon-là. Mais dans la façon dont on applique tout geste qui est provoqué par une émouna la plus forte, il peut être une erreur. Donc la émouna ne se nourrit pas de ce genre-là de certitude, que j'appellerais des certitudes ou des incertitudes tactiques. Mais maintenant, il y a une certitude et incertitude fondamentale. Ça ne peut pas coller avec l'aïmouna. C'est le pari de Pascal, c'est l'aïmouna en second. Alors qu'ici, le verset dit, Tachourimé Roche Amana, l'aïmouna doit être première. Sinon, ce n'est pas une aïmouna, c'est un souci de soi. Le pari de Pascal, c'est le souci de se retrouver dans le meilleur des camps. Alors, comment faire pour résoudre ce problème? Chacun a ce souci-là. Il a trouvé une solution. L'aïmouna, ce n'est pas une solution. L'aïmouna, c'est la neshama, c'est elle qui pousse. Maintenant, ça peut être pavé d'incertitude. Parce que Rabbi Yochanan lui-même, il a dit, je ne sais pas dans quel chemin on m'amène, si j'ai juste, si j'ai tort, ganenen geinam. On peut s'être trompé dans la vie, en étant un grand mamie. Ouais.
C'est pas tout le sujet. On parle toujours de 600 000 personnes autour des personnes qui se trouvaient au niveau des âmes. Mais on parle pas des enfants et tout ça, des femmes. C'est beaucoup de ce bout-là. Alors, à quel niveau il se situe cette catégorie par rapport aux 600 000 adultes?
Je sais pas. C'est la première fois que j'entends ça. 600 000 âmes, je ne sais pas, des enfants, des femmes, des hommes. Une neshama n'a rien à voir qu'une femme ou un homme, ni avec l'âge.
Quand on parle de 600 000 âmes, on parlait pas des adultes en âge de...
On parle d'âmes, on parle pas de personnes. Parce qu'on a dit que la neshama n'a rien à voir avec le nefesh. Nefesh, il y avait environ 3 500 000 qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, il y a eu 600 000 neshamas qui ont été donnés au Har Sinaï. La neshama, elle est ni adulte, ni enfant, ni masculine, ni féminine. La neshama, c'est une volonté divine. On se sert d'une neshama. On vit grâce à une neshama.
Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont le même niveau de...
Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas interdit. Mais maintenant, ils doivent être placés dans des situations différentes, dans des époques différentes, pour que cette volonté, elle s'exerce d'une autre façon. Ce qu'on appelle le Kiddush Hashem ou le Chilul Hashem. Je crois pas. Juste par la force d'être seconde, je sais pas. Je vais vous dire, si déjà vous parlez de ça, je vais vous parler d'autre chose qui a l'air pire que ça. Il y a marqué dans la paracha de la semaine, la paracha de la semaine dernière, Esav à la fin du dernier verset, il y a marqué que ça va vu, Vayar, Kiraot, Belot, Canaan, Bene, Aviv, Yitzhak. Les filles de Canaan, c'était pas ça que désirait son père pour lui. Et il est allé, il a pris Et Machalat Bat Ishmael. Machalat, la fille de Ishmael. Il est marqué Al-Nashav en plus de ses femmes. Le Midrash dit Al-Nashav, une tsara pour encore une autre tsara. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il a pris cette mocholat, me lamed shenim chalulo kol avonotav. En vérité, elle ne s'appelait pas machalat, puisque plus j'ai marqué Bosmat Bat Ishmael. Elle s'appelait Basmat Bat Ishmael. On l'appelait machalat, me lamed shenim chalulo kol avonotav. Au moment où il a décidé de se détourner des femmes de Canaan, tout, Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Il est devenu exactement comme il était au moment de l'heure. Et tout a recommencé, parce qu'il a pris Al-Nashav. Une ra après une ra. La question qui se pose, tu peux me dire que quoi? Que c'est une tova? Après une ra. Mais c'est pas une ra al ra. Pire que c'est marqué Kev al Kev. Malheur sur malheur. C'est non seulement t'as eu les filles de Canaan, mais en plus, t'as eu Machalat Bat Ishmael. Machalat Bat Ishmael, c'était une tzadeket. Comme il y a marqué que Ève Alkel, malheur sur malheur. Parce que quand on n'a pas fait le nettoyage, tout ce qui vient en plus, même si à l'origine c'est bon, ça devient un malheur. C'est ce qui est marqué ici. Ça qui est marqué dans le verset, Sourmera va à cet homme. Mais si tu n'es pas Sourmera, tu ne t'écartes pas du mal et tu fais le bien, alors là cet homme se mélange avec le rat. Absolument. Absolument. Mais quelque chose, elle vient sans effort, juste comme ça, hein, c'est pas évident. Tout celui un jour qui a sacrifié un petit peu de son confort, ou de ses certitudes, ou de ses incertitudes, il a goûté, qu'est-ce que ça veut dire, la Emouna ? Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. Et c'est pas toujours en tant que second. C'est pas le genre, parler de Pascal, j'ai un problème, je vais dans le meilleur des camps. Non. C'est vraiment, il a sacrifié.
C'est pas l'état permanent.
Ça dépend chez qui. Il faut croire. Ça, c'est un cours sur Attila. Ok.
Je m'excuse, Ravi Mal, hier, je vous ai laissé tomber. Vous avez été...